Il est 19h sur Radio Campus Paris, votre rendez-vous de radio confiné ce soir. Vous écoutez Jusqu'à Nouvel Ordre.
Dès lundi et jusqu'à Nouvel Ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude. Rien, voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Je suis plutôt même assez, moi.
Ça va alors?
À distance.
J'ai donc décidé, jusqu'à Nouvel Ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi à 19h.
Jusqu'à Nouvel Ordre ce jeudi. À nouveau un épisode confiné, à nouveau un épisode monté par les bénévoles de Radio Campus Paris, chacun chez eux, puisque le studio est toujours fermé pour les raisons que vous connaissez. Ce soir, on parle justement de ces endroits fermés qui nous empêchent de créer, puisque nous nous intéressons au monde de la culture et aux initiatives qui perdurent malgré le confinement. Les professionnels du spectacle continuent de travailler. Nous recevons notamment en interview Margot Alexandre et Nance Laborde-Jourda, ainsi que la chorégraphe Nadia Vadoré-Gauthier. Les trois nous parleront de leur travail auprès de Chloé et Matisse dans la grande interview d'aujourd'hui. Tout de suite avant, dans le sommaire de cette émission, Marion Sieffer, qui est créatrice d'une initiative de théâtre en direct sur Instagram, dont la pièce Jeanne d'Arc se joue actuellement sur le compte Instagram Jeanne-d'Arc avec un K toujours, que vous pouvez suivre sur Instagram tous les soirs à 20h30, ce soir et demain soir, et probablement programmé à de nouvelles dates pendant le confinement. On écoute tout de suite Marion Sieffer nous parler de la pièce.
Créée en septembre, il y a eu une avant-première à la Rose des Vents, à côté de Lille, on l'a joué 3 fois et après on l'a joué 13 fois au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Donc on a la majeure partie du temps, on a un vrai public de théâtre. Là hier, c'était la première fois qu'on se retrouvait sans public réel. Ben, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans le texte et dans les cadrages, dans ce qu'elle fait, etc. Après, l'espace n'est pas le même, puisque là, c'est celui d'une vraie chambre à Aubervilliers, d'un appartement à Aubervilliers, qu'on a aménagé pour l'occasion. Mais voilà, sur scène, elle est dans un espace dont les dimensions sont très différentes. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de moquette par terre, il n'y a pas de rideau. C'est une chambre en papier, normalement. Forcément, quand elle joue au théâtre et que les gens rient, elle entend les rires, donc... le rythme, en fait, de ce qu'elle fait, ça ménage par rapport à ça, par rapport aux réactions audibles des spectateurs de théâtre. Alors que par rapport aux commentaires, c'est un autre rythme qui va s'installer. Et hier, il y en avait tellement qu'il y avait quelque chose où elle pouvait en choper un ou deux, mais c'était compliqué de suivre en même temps, quoi. C'est l'histoire de Jeanne, une jeune fille de 16 ans qui vit à Orléans dans une banlieue résidentielle et qui, se fait harceler depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Et un soir, elle est seule dans sa chambre et là, elle décide de ne plus se taire et du coup, elle lance son live sur Instagram. Et donc, le spectacle, c'est son live et en même temps, c'est sa prise de parole et tout ce que ce live a déclenché chez elle.
Est-ce que vous aviez pensé, dans la création du spectacle, à l'éventualité d'être reconfinée et de devoir le jouer en appartement, sans la scène de théâtre, en fait?
On savait que de toute façon, on allait être reconfinée ou que les théâtres allaient à nouveau refermer. C'était un truc auquel on s'attendait. Alors, c'est vrai qu'il y a eu énormément de monde. On a été suivis par 600 personnes environ. Et ça, c'était une grosse première pour nous. Ça change énormément. Le fait d'avoir un public sur Instagram, ce n'est pas du tout la même chose qu'avoir un public de théâtre. En fait, Internet, parce qu'il y a des spectateurs qui m'ont écrit qu'ils avaient été heurtés par certains commentaires, qui était négatif, qui n'était pas du tout bienveillant, en fait. Oui, c'est vrai que du coup, là, on voit Jeanne d'Arc en train de lutter face à des ennemis. Ils sont là, donc c'est vrai que ça nous sert aussi d'un point de vue, du jeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a anticipé, qu'on a provoqué, mais je pense que c'est quelque chose que la pièce révèle et qui, du coup, qu'on intègre à la pièce, en fait. Du coup, ce live, il a été rendu possible grâce à plusieurs théâtres qui ont mutualisé, du coup, leurs moyens de production. Alors, des théâtres dans lesquels on aurait dû aller jouer en novembre, c'était le Théâtre d'Art, le Théâtre Nouvelle Génération à Lyon et la scène nationale de Brive-Tulle, l'Empreinte. Et puis, il y a deux autres théâtres qui se sont rajoutés. Le Théâtre de Liège, qui a un festival en ce moment qui s'appelle le Festival Impact, dédié à la création numérique, et le théâtre de Dresde, notamment le festival Fast Forward, qui a organisé aussi hier un surtitrage pour le public allemand et anglophone depuis leur site. Voilà.
La pièce Jeanne d'Arc, donc, de Marion Sieffert, à découvrir sur le compte Instagram pendant les soirées en live, le compte Jeanne-d'Arc.
Jusqu'à nouvel ordre. Du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre s'intéresse à l'actualité politique avec l'âme chronique de Mathilde Dalia qui s'intéresse pour nous à la notion de genre dans la constitution hongroise.
Mardi 10 novembre, la Hongrie a fait une proposition de loi visant à inscrire dans la constitution le genre. En effet, après la loi en mai dernier qui interdisait un changement de sexe à l'état civil, le Premier ministre Viktor Orban veut désormais interdire aux citoyens la possibilité de changer de sexe au cours de leur vie. Le texte, envoyé au Parlement, contient notamment les phrases « la mère est une femme, le père est un homme » ou encore « l'éducation est assurée conformément aux valeurs fondées sur l'identité constitutionnelle de la Hongrie et la culture chrétienne ». Cette loi est dans la lignée de la politique d'Orban qui ne cesse depuis une dizaine d'années de s'attaquer aux droits des personnes LGBT. Pour lui, il s'agit de contrer ce qu'il appelle les nouvelles tendances idéologiques modernes du monde occidental et de protéger les enfants en leur donnant droit à un développement sain. Dalia, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement comment cette loi s'inscrit dans la tradition catholique hongroise ?
Alors, une des philosophes françaises qui s'est pas mal emparée de la question des démocraties libérales en Europe de l'Ouest et du populisme hongrois ces dernières années, c'est Chantal Delsol. Cette figure intellectuelle française se revendique libérale, conservatrice et catholique. Alors, vous me direz que ce n'est peut-être pas la meilleure pour être impartiale sur le sujet, certes. Il n'empêche qu'elle est énormément lue et écoutée en France, et que son analyse reste, je trouve, intéressante. Pour elle, ce qui s'est passé, c'est que quand le bloc soviétique s'est effondré, les ex-pays communistes ont épousé les principes démocratiques, à savoir la voix du peuple, mais jamais la mondialisation. Cette mondialisation et cet universalisme promu par l'Union européenne a été perçu en Hongrie et en Pologne comme dévalorisant l'amour de la patrie. La mondialisation pour eux demande aux citoyens de ne plus être patriotes, mais citoyens du monde. Ils voient la mondialisation comme leur imposant de nouvelles valeurs fondées sur le multiculturalisme qui cherche à effacer leur identité et à écraser la chrétienté. Mais dans les pays comme la Hongrie, c'est précisément cette identité et culture chrétienne qui les a fait survivre en période d'oppression. Ils ont une vision organique, ethnoculturelle de la nation et ont comme valeur suprême l'identité nationale, l'identité culturelle, la spiritualité et cherchent donc à tout prix à préserver cette chrétienté, jugée étant tout ce qui les unit. Et à partir de ce postulat-là, deux analyses divergent. La première, c'est celle des médias français. Les articles qui présentent le texte de loi sont très fréquemment suivis d'un rappel sur la crise entre la Hongrie et l'Union européenne. Et je vous le rappelle, la Hongrie depuis des mois bloque le budget prévu par l'Union européenne pour les prochaines années. En réponse, le Parlement européen et le Conseil ont prévu une disposition qui prévoit de couper les aides européennes prévues dans le cadre du plan de relance post-Covid aux États qui ne respectent pas l'état de droit. Et voilà qu'une semaine plus tard, la Hongrie vote cette loi sur le genre, alors que l'Union s'efforce de prouver qu'elle œuvre pour les droits LGBT. Ça, c'est majoritairement ce qui ressort en France. Le fait que cette loi hongroise serait principalement en doigt d'honneur à l'Europe qui lui fait pression. La deuxième analyse, c'est celle de Chantal Delsol. C'est que la Hongrie ne respecte qu'une loi, celle de la voix du peuple. Le peuple est maître de tout. Alors on peut légitimer les urnes sur le droit. Et puisque le peuple hongrois est à 75% chrétien, les droits des uns sont sacrifiés sur l'autel des désirs électoraux. D'ailleurs Mathilde, cette dernière analyse rejoint ce que t'a rapporté ce Hongrois de 20 ans que tu as pu contacter depuis Budapest.
Effectivement, selon lui, cette loi n'a pas grand-chose à voir avec l'Union européenne. Pour lui, Orban est intéressé par le pouvoir et son électorat étant composé de chrétiens conservateurs, il cherche à leur faire plaisir en passant des lois concordant avec leur idéologie. Une autre raison qu'il a avancée, c'est que selon lui, le Premier ministre hongrois gère mal la crise du coronavirus dans son pays et que par conséquent, cette loi tombe à pic pour détourner l'attention de la population. Il nous a aussi mentionné le peu de réactions dans son pays face à cet amendement de la Constitution. En effet, mis à part quelques posts sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont suivi, notamment par les associations LGBT telles que Hatter Society, il n'y a eu ni manifestation ni article dans les médias hongrois. Il est important de préciser que ces deux facteurs peuvent être expliqués de 1. Par le confinement mis en place dans le pays qui interdit tout rassemblement, et de 2. Par le fait qu'Orban contrôle 80% des médias en Hongrie. En conclusion, les avis divergent entre le point de vue sur la crise depuis la France et depuis la Hongrie. Nous montrons bien que pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette loi, une analyse transfrontalière est nécessaire.
Que tu m'aimes. Allô, Simon? C'est qui?
C'est toi?
C'est qui? Rappelez plus tard.
Romain?
Je caresse mon léopard.
Jackson?
Allô? Allô?
Elisa?
C'est qui? C'est qui?
Carla?
Rappelez plus tard.
Allez, vendez la mèche, quoi.
Je recompte mes dollars. On s'en va à Athènes, on revend nos GSM, on fait la nique au système. Mais j'ai vraiment trop la flemme de réarroser la graine. Je crois bien que c'est un blème. Allez, je m'en vais pour Vienne. Embrasse ton père et ta chienne. Et si tu passes en Touraine, embrasse la cousine Tiffaine, qui a vraiment mauvaise haleine. Comme une envie de remplir de tes grands yeux l'avenir, de te construire un menhir, qu'on aille se boire un kéfir.
Ava Verden avec son nouveau morceau Allô dans Jusqu'à Nouvel Ordre sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Et nous poursuivons cette émission spéciale culture. La culture est confinée. Les initiatives se poursuivent et cherchent à s'inventer en dépit des contraintes de distanciation sociale et puis surtout des contraintes de ne pas pouvoir présenter les spectacles devant le public. Chloé et Mathis de la rédaction sont allés à la rencontre par téléphone de Margot Alexandre et Nance Laborde Jourda.
Salut à tous, salut Mathis.
Salut.
C'est tombé comme un coup de massue, un énième coup pour la culture. Fermeture des théâtres, des cinémas et des musées le 28 octobre 2020. Tous ces lieux de connaissance, ces lumières dans la nuit sombre de l'épidémie. Fermés, et ce jusqu'à nouvel ordre. La culture enchaîne les coups et les uppercuts, elle se relève à chaque fois. Mais elle se relève de plus en plus lentement et elle garde des cicatrices. Malgré les 5 milliards d'euros débloqués par l'État depuis mars 2020, de plus en plus d'acteurs culturels tirent la sonnette d'alarme. Tous, en tout cas, ont dû s'adapter, trouvant des manières innovantes de créer, conscients de l'importance presque vitale de la culture dans notre monde actuel.
La culture continue de rapprocher ceux qui seront loin et n'a jamais été aussi indispensable qu'en ces temps où la solitude et l'angoisse nous gagnent. Il en faut du courage aux artistes pour continuer à créer en ces temps difficiles. Tout est sans dessus-dessous. Ils n'ont plus aucun repère, leurs conditions de travail sont bouleversées. L'essence même de leur art est chamboulée. C'est le cas du théâtre, art public par excellence, qui repose sur la représentation. Une troupe jouant devant un public. À l'heure où l'interaction est interdite, comment le contact, l'échange entre acteurs et public peut continuer ? Margot Alexandre et Nance Laborde Jourda sont tous deux passés par le conservatoire d'art dramatique du 5e arrondissement. Ils ont créé ensemble la compagnie Toro Toro en 2016. Leur nouvelle pièce Polyester invite le spectateur à assister à une répétition de danse entre deux acteurs et un répétiteur professionnel. Des scènes sur le quotidien d'une école de danse, les témoignages de 8 adolescents sur comment un livre, le grand studio a changé leur vie et des scènes où deux comédiens viennent jouer des extraits de cette saga littéraire. Les témoignages sont écrits et tout est fiction. Ils peignent et dépeignent à tour de rôle leur vision du monde et leur rapport intime à la danse. La pièce devait se jouer au théâtre de Vanves, mais le minuscule virus, invisible à l'ONU, petit être plus connu qu'une star de TikTok, en a décidé autrement. Eux sont en résidence au théâtre, faute de pouvoir se représenter. Ils sont présents chaque jour pour venir écrire. On a tendu une oreille et de haute main le micro. Margot Alexandre et Nance Laborde Jourda se sont connectés à distance et sont avec nous pour nous parler de l'état de la culture aujourd'hui et de demain. Si la pièce est une forme hybride et mouvante qui se réadapte à chaque nouveau groupe d'adolescents, comment se réadapte le théâtre à chaque nouveau confinement ?
Bonjour Margot Alexandre et Nance Laborde Jourda.
Pendant le Covid, comment ça se passe ? Comment ça se passe d'être en résidence pendant le Covid ? Est-ce qu'il y a une dérogation ou est-ce que...
Est-ce qu'il y a une dérogation ? Oui, en fait, on a dû faire avec le théâtre et la compagnie, on a des autorisations pour venir répéter. Parce que c'est considéré comme un travail qu'on ne peut pas faire en télétravail.
Concrètement, c'est assez simple avec cette autorisation de travail.
Après, c'est particulier parce que nous, par exemple, on répète une pièce qui sera jouée avec des adolescents.
Ouais.
Donc là, des adolescents qu'on a rencontrés qui sont devant. Nous, on aurait dû jouer la première de cette pièce qu'on répète depuis un an. On devait la jouer vendredi.
Le 21, ouais.
Donc cette première n'aura pas lieu, elle sera décalée à l'année prochaine. Nous, on a décidé quand même de maintenir les répétitions. On n'a pas pu travailler avec les adolescents avec lesquels on avait commencé le travail en septembre. Donc là, on répète sans eux cette semaine, donc c'est un peu étrange pour nous, parce que c'était en lien avec le conservatoire et que eux, ils n'ont pas le droit pour l'instant d'aller se rendre au conservatoire, donc nous, on n'a pas le droit de les rencontrer en ce moment. Alors, on travaille qu'à distance, c'est-à-dire qu'on va leur envoyer le texte qu'ils vont apprendre, on va pouvoir communiquer et essayer d'avancer sur la pièce, mais à distance avec eux.
Et répéter dans cette incertitude-là, c'est un peu particulier. Au début, ça nous a un peu coupé dans notre élan, et puis finalement, on s'est dit non, mais on maintient le travail, même si là, on va sûrement jouer finalement en mars. Donc, on se retrouve à répéter, et puis au bout d'un moment, les répétitions, oui, c'est une chance de pouvoir maintenir les répètes, mais en fait, au bout d'un moment, notre métier, il est fait pour, on fait ce qu'on fait pour le montrer aux gens. Donc, et surtout au théâtre, c'est particulier, quoi. On s'est posé la question d'inventer une forme, qui soit une forme vidéo, pour marquer le coup le jour de la première, donc qui aurait dû avoir lieu samedi, comme disait Nance. Mais en fait, c'est bizarre aussi, parce qu'on fait du théâtre, là, et ça pose aussi la question de comment on représente le théâtre aussi en vidéo. Et ça, je trouve que c'est un peu l'écueil un peu compliqué dans lequel... tout le monde est obligé de tomber et on est obligé évidemment de céder à ça, mais en ce moment beaucoup de pièces beaucoup de théâtres se fait en captation. De toute façon, on ne pouvait pas avoir des ados, donc on a décidé de ne pas faire une captation vidéo et d'attendre vraiment de jouer cette pièce-là en vrai. Mais c'est vrai que c'est spécial de travailler beaucoup là en ce moment sans vraiment le spectacle à la clé, quoi. Sans échéance, sans date de première, vraiment. Après, a priori, on espère que ça sera maintenu en mars, que c'est défilé au mois de mars. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Là où on perd pas notre enthousiasme, c'est qu'il va falloir qu'on fasse avec ce rapport au temps qui est différent, quoi. Il va falloir accepter que les choses finiront par se faire, mais elles ne se feront pas tout à fait au moment où on l'avait prévu. Donc ça fait deux fois qu'on reporte un peu des échéances comme ça, entre le confinement du printemps et celui de qui a lieu en ce moment. Et du coup, en fait, on est obligé de relativiser, quoi, et de se dire que les choses arriveront. Il faut juste un peu transformer notre rapport au temps, être patient et continuer à rester en activité. À rester créatif, et actif en ce moment, quoi. Donc ça va.
Oui, parce que quand c'est impossible, enfin difficile de voir. Le futur, à quoi il ressemble, de se projeter, on se dit bien que ça doit être pas facile de continuer à créer. Et on peut avoir, enfin, ça peut être difficile.
Pour beaucoup de gens, il y a des gens qui devaient jouer au printemps dernier, ça a été annulé. Ils ont reporté au mois de novembre et c'est encore annulé. Donc accepter des annulations à deux reprises comme ça, c'est faut être positif, quoi, pour accepter ça. Mais c'est comme ça.
Bah, financièrement aussi, j'imagine que financièrement c'est quand même des coûts, surtout dans le monde du théâtre qui est précaire, enfin dans le monde du spectacle.
Ouais, c'est sûr.
Et pour tout le monde, après, tu vois, je sais que on est quand même. On a été quand même. Je ne vais pas dire aider, mais il y a quand même cette intermittence qui fait qu'on a quand même une sécurité que d'autres n'ont pas aussi. Et là, je vois quand même, on est quand même assez chanceux de pouvoir. Moi, j'ai hâte qu'on puisse jouer, j'ai hâte de pouvoir montrer ce qu'on fait, mais quand même, on est quand même chanceux.
Vous ne vous sentez pas abandonné du tout par le gouvernement, par exemple, comme beaucoup l'ont dit?
Si, quand Macron parle absolument pas de culture dans son discours, si, complètement.
Oui.
On était très, très, très choqués de ça, en fait. Qui prononce même pas ce mot-là dans ce discours, c'était profondément choquant, en fait. C'était vraiment grave. C'était plutôt une bonne surprise qu'on puisse continuer les répétitions, mais c'est quand même c'est quand même difficile aujourd'hui de faire du théâtre. Faut pas faire des choses, on continue à les faire.
Mais est-ce que ça, par ailleurs, ça change la pièce d'avoir plus de temps pour la travailler? Je sais pas, est-ce que ça change le contenu de la pièce?
Évidemment, ça va changer, mais c'est pas forcément bien. Je pense pas que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément une période qui est, donc là, on répète. On essaie d'écrire, mais c'est pas non plus une période qui. Le contexte fait que c'est pas non plus un truc qui emmène vers quelque chose de léger, et de libre et de.
Pour tout le monde, c'est assez difficile d'être créatif en ce moment parce que, en même temps, cette période, oui, elle pourrait être inspirante parce que c'est complètement inédit ce qu'on vit, c'est sans précédent. Mais pour beaucoup d'artistes en ce moment, c'est difficile aussi de trouver de l'inspiration. C'est difficile d'être créatif. Et puis, mais il y a quand même toujours des choses à faire. Après, moi, je remarque que pour une pièce de théâtre, parfois. Avoir trop de temps, c'est pas forcément une bonne chose, parce que le temps, ça crée du doute aussi. Donc, quand on n'a pas d'échéance, on continue à travailler. Donc parfois, on change d'avis, on revient sur une idée, on recommence, on retriture l'objet comme ça dans tous les sens. Et c'est pas forcément bon, parce qu'à un moment, il faut arrêter une date et il faut se dire, OK, le travail est fini et maintenant, on le montre à des gens.
Ouais, mais est-ce que la volonté de créer, l'obligation de créer, elle n'est pas liée aussi aux difficultés économiques, par exemple, qu'on peut avoir dans le milieu du théâtre?
Pour moi, c'est un autre problème, en fait.
Plus sur la diffusion, sur comment sont gérés les théâtres aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a des théâtres aujourd'hui qui sont gérés vraiment comme des entreprises. Et puis, il y a d'autres théâtres qui s'interrogent quand même vraiment en profondeur sur comment on montre le théâtre aujourd'hui, comment on soutient les équipes, comment on interroge tout ça. C'est ça qui peut être un petit peu remis en question aujourd'hui. En tout cas, les théâtres vont être obligés de se poser cette question-là. Et si ça peut aller vers le positif, c'est tant mieux, quoi.
Si vous avez une vision positive, c'est intéressant ce que vous dites.
C'est assez optimiste.
Ouais, c'est assez optimiste.
On on essaye, on est obligé, mais on a créé notre compagnie. Nous, ça fait 2 ans qu'on fait des trois ans qu'on fait des spectacles. On a tout à faire encore. Donc, heureusement qu'on. En fait, on est obligé d'être optimiste.
Voilà, on n'a pas pu montrer ce qu'on fait. Donc, voilà, ça pose vraiment des questions sur. Mais c'est assez excitant, quoi, de. Sur comment montrer voilà, notre travail, est-ce qu'il ne faut pas réinventer, qui d'accord des spectacles, mais qui est peut-être des formes plus courtes, qui peut y avoir 10 000 choses, quoi. Ça donne des envies de photos, de films. Ça... Encore une fois, je parle vraiment de l'artistique et pas de toute la partie financière, toute la partie tout ça, mais artistiquement, je pense que ça nous oblige à repenser des choses et à prendre du recul et à se poser un peu, je trouve. C'était pas mal. De pas être dans une sorte de tourbillon de folie comme il y a pu y avoir à un moment donné, en fait, de prendre le temps.
Et bien, ça termine sur une note très positive, c'est une très belle vision.
Et bien, merci Margot, Alexandre et Nance Laborde de Jour. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's alright. It's alright. Little darling, it's been a long
C'était Nina Simone, Here Comes the Sun.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Ce n'est pas le soleil, mais bien la culture que l'on espère voir revenir le plus vite possible. Nous rejoignons à nouveau Chloé et Mathis pour la suite de leur interview spéciale Culture Confinée. Cette fois-ci, ils contactent Nadia Vadori-Gauthier, chorégraphe et initiatrice de Une minute de danse par jour, initiative que l'on peut retrouver sur Internet. On les écoute.
On le voit, la culture n'est pas morte. Il faut résister pour la faire persister. Malgré les difficultés auxquelles le monde de l'art est confronté, certaines initiatives perdurent et continuent à nous émerveiller. Danseuse et chercheuse en art, Nadia Vadori-Gauthier est à l'origine d'un projet original et libérateur, Une minute de danse par jour. Après les attentats de 2015 qui l'ont profondément bouleversée, elle s'est lancée un défi personnel, danser tous les jours une minute, qu'importe les circonstances, pour agir dans l'espace. C'est une poésie du quotidien pour ne pas céder à la peur. La danse recrée du lien entre les êtres humains, leur environnement, dans des périodes sombres. Nadia Vadori-Gauthier se filme tous les jours depuis 2015 et poste ses vidéos sur son site uneminutededanse.jour.com. Ses chorégraphies jaillissent spontanément et s'incluent dans leur environnement. Pendant une manifestation, des travaux ou encore un marathon. Rien ne l'arrête, c'est une artiste qui s'engage. Depuis le premier confinement, elle a lancé un hashtag, hashtag One Minute of Dance a Day, ouvrant à tous son initiative personnelle. Et depuis vendredi dernier, elle appelle les professionnels de la culture à danser une minute pour défendre l'art et la culture comme étant essentiels à une dimension éthique collective. Face au gouvernement qui les considère comme non essentiels, Nadia Vadori-Gauthier se bat pour l'art et la culture. Ce sont pour elle des indispensables.
Bonjour Nadia, dites-nous comment ce projet continue à exister pendant ce confinement.
Mais le projet, en fait, c'est de danser chaque jour quel qu'il soit. Donc, pendant la première période de confinement, pour le coup, on était vraiment assigné à résidence quelque part. Et là, il y a eu plusieurs danses d'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai aussi ouvert l'appel à tout le monde pour qu'on puisse garder une dimension collective de ce partage. Et j'ai invité ceux qui voulaient à poster des danses aussi de confinement. Donc là, il y a eu beaucoup de réponses et de danses qui ont été postées pendant tout le temps que ça a duré. Touchés par la situation de l'art et de la culture, qui sont considérés comme non essentiels. Et donc, ça, c'est quelque chose qui passe difficilement pour moi, qui me paraît assez grave, d'un point de vue collectif aussi, d'un point de vue de ce que ça implique pour tout le monde de se voir privé de ça. Et donc, j'ai plutôt lancé l'appel, cette fois-ci, aux professionnels de l'art et de la culture, quels qu'ils soient, pour danser une minute, pour donner plus de visibilité à cette question. Donc, c'est là-dessus que je suis en ce moment, qui n'empêche pas les autres personnes qui veulent de poster des minutes de danse dans le groupe que j'ai créé.
Et du coup, c'est un hashtag, c'est sur, juste pour qu'on le rappelle aux auditeurs, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram, et on peut partager.
Tout le mode d'emploi et l'appel est sur le site.
Ok, parfait.
Une minute de danse par jour, il y a un lien dans les événements qui indique toute la marche à suivre et qui aussi donne un lien vers les vidéos qui ont été faites par les gens, par les professionnels. Sinon, les gens peuvent poster sur Instagram c'est pas un hashtag, mais en me taguant One Minute of Dance a Day.
Mais vous sentez que ça contribue à créer du lien, enfin en tout cas à permettre au lien de survivre pendant cette période de confinement ou pas?
En tout cas, c'est sûr que ça crée du lien parce que nous, on est en relation pour tout ça. Et aussi, comme je le poste, ça crée des échanges, des repostes, bien sûr.
Et donc là, le fait de voir que tous ces professionnels de la culture se lancent dans ce projet avec vous, ça vous touche, ça vous rassure justement par rapport à cette situation difficile du monde de la culture en ce moment. Ça vous dit qu'il y a de l'espoir, que tout n'est pas perdu, qu'on va s'en sortir. On le voit, les gens donc s'impliquent, sont engagés.
Voilà, ça c'est sûr que les gens sont engagés et qu'ils travaillent. Ils travaillent même quand ils n'ont pas le droit d'ouvrir leur lieu. Ils travaillent à empêcher que le navire coule, à essayer de vous sauver la situation parce qu'elle est grave. Et le fait qu'ils répondent à cet appel, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de fédérateur.
Mais la culture, le monde de la culture, en tout cas le monde du spectacle, c'était déjà un milieu assez précaire et difficile d'exister dans ce milieu. Est-ce qu'avec le Covid, c'est pas une double peine, même pour ceux qui sont lancés dedans il n'y a pas longtemps?
Non, mais c'est la catastrophe, c'est le désert. Pour les jeunes créateurs, c'est le désert. Il y en a qui commencent leur carrière, mais ils ont là tout leur semble impossible. Et en plus, ils n'ont pas de revenus. C'est vraiment très compliqué parce que les théâtres, sont en train de gérer les reports, les autres choses, sont en train de savoir.
Vous expliquez bien combien en fait la danse elle est essentielle et elle est nécessaire, et c'est bien ce que vous essayez de montrer. Et là du coup la culture est non essentielle, tandis que vous dans votre initiative, c'est ça en fait, c'est danser une minute par jour, c'est parce que c'est essentiel, c'est nécessaire pour remettre un peu de la poésie dans ce monde qui devient de plus en plus abrupt, de plus en plus compliqué.
Au départ, j'ai pas commencé à danser pour dire que la danse était essentielle ou que l'art était essentiel, même si je pense que ça fait partie des fondamentaux d'une éthique de vivre ensemble qui nous permet, qui est essentiel dans l'art au sens large, dans la création au sens large, c'est que ça nous permet d'être ensemble à partir de d'autres dimensions que celles de notre métier, de notre identité, de notre statut social, de nos sexes, de nos genres, de toutes les codifications qui nous assignent à des catégories, qu'on peut être ensemble à partir d'autres choses, c'est-à-dire nos parts de sensibilité, de rêves, d'imaginaire, de tout ce qui en nous n'a pas de mots et qu'on a besoin de connecter à ce qui n'a pas de mots dans l'autre. Et ça c'est une dimension qui nous connecte aussi au monde, à la partie non humaine du monde, au vivant non humain qui est la nature, les arbres, les animaux, tout ce qui nous entoure. On a besoin de cette interconnexion qui passe par la sensibilité, sinon on va dans le mur. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de prendre Nietzsche au pied de la lettre pour dire, Nietzsche dit que l'on est perdu toute journée où l'on n'aura pas dansé au moins une fois. Donc en le prenant vraiment au pied de la lettre, si je danse pas, c'est foutu. Si je danse pas, parce que c'est ça que je peux faire. Donc si je ne sais pas, c'est foutu. Si je ne sais pas, autant aller se coucher, parce qu'il y a vraiment quelque chose à mener, en tout cas, dans ce monde, pour sortir de la désertification. Et donc, moi je danse, mais ça, ça peut être par la poésie sonore, ça peut être par la peinture, par la musique, par n'importe quelle pratique qui me connecte à ces dimensions qui ne sont pas uniquement pratiques, quoi.
Et est-ce que même ceux qui ne savent pas danser et qui n'ont pas forcément d'expérience, ils peuvent utiliser leur corps à cette occasion-là pour participer à ce projet?
On a que ça, on a que le corps, il n'y a que le corps. De toute façon, tout le monde danse en vérité. Les petits enfants, quand on les voit, ils bougent quand il y a de la musique. Au départ, tout le monde danse. C'est après les codes sociaux qu'on hérite, les lois ou simplement les opportunités qu'on n'a pas eues de danser qui petit à petit peuvent faire le corps à la danse. Mais à l'origine, tout le monde est disposé à danser. Et finalement, il n'y a pas besoin d'être un danseur professionnel avec une technique pour danser. On peut danser dans une fête, on peut danser dans un salle de bain, on peut danser pour soi-même, et ça n'a rien à voir avec savoir danser d'une certaine façon, c'est simplement laisser le corps exprimer ce qu'il y a dans l'instant.
Bah nous, on va essayer en tout cas.
Et ça me fait penser, en fait, mais quand ce proverbe chinois là dont vous parlez de goutte à goutte, qui l'eau traverse la pierre et arrive à percer la pierre.
Oui, hier, j'ai envoyé un mail, je ne sais pas s'ils vont me répondre, mais j'ai déjà eu deux réponses en fait, mais à une dizaine de lieux à Paris, puisque moi je suis à Paris, en banlieue sud, tout près de Paris, des lieux vides dans lesquels je voulais aller danser, des théâtres, des expositions, des bibliothèques, etc. Il y a déjà la Gaîté Lyrique qui a accepté que j'aille danser dans le plateau vide, et Chaillot aussi. Et je suis tout de suite posé la question à des musées, j'espère qu'ils me répondront, parce que là, je voudrais aussi aller danser dans les minutes de danse, dans les lieux où on n'a pas accès, pour les donner à voir, quoi.
Vous l'avez déjà fait, là, votre danse du jour, aujourd'hui? Ou il est trop tôt encore?
Non, moi, je l'ai pas fait. En général, là, avec tout le travail que j'ai à faire, passe avant ma danse. Mais il y a un groupe ouvert à tout le monde qui est une minute de danse par jour, mais le groupe. Donc ça se autogère et c'est. Enfin, j'y vais tous les jours pour vérifier qu'il n'y a pas de problème dessus. Mais c'est là que les gens postent leur danse de toutes sortes aussi.
Bah, on va sûrement
le faire aussi.
Oui, on va sûrement le faire aussi et encourager.
J'attends votre vidéo, là, de fait.
Eh ben, merci beaucoup, madame, au revoir. Enfin, je crois, Mathis, qu'on va aller danser, nous aussi. Hein.
Ouais, moi, je vais attendre que les théâtres rouvrent et...
Pour y retourner, c'est comme ça qu'on va sauver la culture.
C'est ça.
Ouais.
Les grands héros de la culture.
Ouais, c'est grâce à nous, et c'est surtout grâce à vous, auditeurs, que la culture sera sauvée.
On espère.
Merci Chloé et Mathis pour ces deux interviews. On en sait un peu plus maintenant sur la culture pendant ce confinement, comment les professionnels travaillent.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Le G20 approche à grands pas. La Chine signe des traités de libre-échange avec l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Les relations internationales sont tendues et en parallèle de tout ça, Audrey, tu reviens sur le sommet de la paix et la stabilité qui s'est tenu mercredi dernier en ligne.
Exact. Connaissez-vous l'OCS ? Non, ce n'est pas la plateforme de streaming que vous avez pris pour regarder Game of Thrones l'an dernier, mais c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais pourquoi je vous en parle maintenant ? Le sommet international pour la paix et la stabilité s'est tenu le 11 novembre dernier, en ligne. Alors qu'en France, nous célébrions le 102e anniversaire de l'armistice, la Russie, l'Inde, la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Pakistan se sont réunis pour la 20e édition du sommet de l'OCS. Si on écoute le talk show quotidien, Yann Barthès le présente comme l'apérozoom des dictateurs. Alors certes, au vu de la composition du groupe, cela n'évoque pas un souffle démocratique.
Mais qu'est-ce que l'Organisation de coopération de Shanghai ? Une sorte d'Union européenne ?
Pas vraiment, c'est pourquoi revenons à l'origine de l'OCS en 1996. En Europe, c'est l'époque des Spice Girls, avec le fameux titre Wannabe. En Eurasie, 5 pays, eux, s'allient pour définir les frontières de l'Asie centrale. Les fameux Five de Shanghai, que sont la Chine, la Russie, le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Ils signent tous les 5 les fondations d'un traité. Ce traité de coopération de Shanghai vient tracer les contours des pays eurasiens au lendemain de la chute de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Cependant, il faut attendre 2001 pour que l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, soit formée. L'Ouzbékistan rejoint les Five de Shanghai la même année. Un second élargissement a lieu en 2017 avec une adhésion complète de l'Inde et du Pakistan. D'autres pays ont décidé d'être des pays observateurs de l'OCS. C'est notamment le cas de l'Afghanistan, de l'Iran, de la Mongolie ou encore de la Biélorussie.
Définitivement, la Biélorussie n'est pas vraiment prête à se rapprocher de l'Union européenne. Quels sont les autres États eurasiens qui ont participé au sommet ?
L'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Sri Lanka, le Népal et le Cambodge étaient présents. Même la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a été invitée à la réunion. Pour info, l'OCS représente plus d'un quart de la population mondiale. En résumé, ça fait un paquet de monde pour échanger sur la paix. L'OCS s'est engagé à respecter le droit international et les principes de respect mutuel. Alors que, bon, la Turquie s'immisce dans tous les conflits au Moyen-Orient, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient encore en guerre il y a un peu plus d'une semaine, le Kirghizistan a coupé Internet pour empêcher les manifestations contre son pouvoir, le Pakistan, l'Inde et la Chine se font face pour récupérer la région du Cachemire, et que la Chine place la minorité des Ouïghours dans des camps. Mais bon, je ne peux pas citer que les aspects négatifs de la situation. La Russie a aussi permis la signature du cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et la Chine a signé un accord pour atteindre la neutralité carbone en 2060.
Alors, mais concrètement, l'Organisation de coopération de Shanghai, à quoi sert-elle ?
Selon Rachid Alimov, le secrétaire général de l'organisation, l'OCS, c'est avant tout, je cite, une association multilatérale pour assurer la sécurité et maintenir la stabilité dans la vaste région eurasienne, pour unir leurs forces pour contrer les défis et menaces émergentes et pour renforcer le commerce ainsi que la coopération culturelle et humanitaire. Le but premier de l'OCS était de garantir la sécurité des pays membres face à la menace terroriste et extrémiste de leurs voisins comme l'était l'Afghanistan en 1996. D'ailleurs, encore aujourd'hui, l'Afghanistan est un des sujets à l'ordre du jour. Cette année, ils ont rappelé que la résolution de la situation afghane permettrait de renforcer la sécurité des États membres ou partenaires observateurs de l'OCS. C'est pourquoi tous les ans, les chefs des États membres ou partenaires observateurs viennent discuter de la paix pour leur peuple.
Cette année, il me semble que l'édition était assez particulière. Pas de poignée de main, d'accolade ou de messe basse. Avec la crise sanitaire, les présidents de chaque pays se sont organisés différemment.
La réunion en ligne était menée par Vladimir Poutine. Elle a abordé la gestion de la crise sanitaire et ses répercussions sur le développement économique de chacun des pays de l'OCS. Internet, le numérique et les réseaux sociaux ont d'ailleurs occupé une place importante lors du sommet de la paix. La déclaration de Moscou des chefs d'État de l'OCS met en évidence l'importance de limiter la diffusion des idéologies séparatistes et terroristes sur Internet. Tous veulent accélérer la numérisation des zones rurales et en même temps sécuriser l'information en ligne. Pour certains, c'est relativement efficace, hein. Le grand pare-feu chinois bloque toute communication, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp ou sur toute interface de Google. Donc c'est numérisé, mais bon, c'est bloqué. Ce sommet n'a pas fait beaucoup de bruit en France, hein. J'ai trouvé seulement des articles francophones de médias chinois comme Xinhua Net ou Le Quotidien du Peuple, mais quasiment rien dans les médias français. L'an prochain sera sûrement décisif pour l'OCS. C'est le 20e anniversaire de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il ne reste plus qu'à espérer que d'ici là, la Chine ne sera pas en guerre contre les États-Unis et que la crise sanitaire ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
Merci Audrey. Je me tourne vers Alexandra.
Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des nouvelles technologies. Je l'adore. Il me procure une sensation d'ambiguïté qui, d'un côté, me fait croire que nous avançons vers une belle science-fiction sans précédent, ou de l'autre, que nous nous enfonçons dans un univers sombre du genre Black Mirror.
Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Imaginez-vous un monde où vous pouvez vous enfermer dans votre propre bulle sonore. Vous écoutez vos morceaux préférés, vous tirez à fond sur des zombies sans baisser les sons, vous regardez des vidéos pour adultes et vous n'avez pas à avoir honte du bruit.
Je vais t'arrêter là, nous en profitons déjà tous les jours. C'est le casque.
Pas tout à fait, je te sors le mot-clé. La bulle. Cette invention de l'entreprise Noveto Systems, l'enceinte Soundbeamer 1.0, permet de nous enfermer dans une bulle sonore sans que notre entourage soit dérangé, sans avoir besoin d'écouteurs.
Waouh, ça semble futuriste.
Pourtant, ce n'est pas une nouvelle technologie. L'innovation porte sur un module de détection pour localiser la position des oreilles de la personne. Les ondes sonores se collent à l'auditaire et suivent ses mouvements. Le directeur général de Noveto Systems, Christophe Rammstein, décrit cette sensation. J'ai des sons qui jouent dans ma tête comme s'il se passerait quelque chose dedans. Au premier abord, je me suis dit qu'il parle de sa maladie mentale. Mais les personnes qui ont testé cette enceinte disent que la sensation d'écoute est sans précédent. Les sons 3D est si proche et il est partout, tout simplement dans nos têtes.
C'est vachement cool comme Dolby Surround.
C'est ça. Noveto s'attend que cet appareil ait plusieurs utilisations. On ne dérange personne. On n'a pas d'écouteurs, donc on entend d'autres sons dans la pièce. Clairement, je vois déjà une bonne campagne publicitaire. Vous vous faites chier au bureau, vous êtes en call Zoom et vous vous en foutez. L'horaire finit grâce à notre super enceinte qui met les sons dans vos têtes. Personne ne s'apercevra que vous ne l'écoutez plus. Qu'en penses-tu ?
Tu ne ferais pas carrière dans la publicité, je pense. Je vois bien l'utilité de cet appareil, mais tu as mentionné Black Mirror au départ. Ça fait pas un peu peur ?
Écoute, comme le feu, on peut l'utiliser de la meilleure et de la pire manière. Par exemple, tu es dans un magasin, d'un coup, tu entends une voix toute douce. Achète-moi. Non, pas qu'un. Prends-en deux. Et même entre nous, nous pourrions envoyer nos sons vers les oreilles des gens, leur faire croire que nous sommes des fantômes ou Dieu même. Nous n'allons pas vers de la simulation, là. Ou peut-être vivons-nous déjà dedans.
Merci Alexandra pour ce point sur les nouvelles technologies.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Et puisque cette émission est consacrée à la culture, nous retrouvons Nolwenn qui nous parle de la place des vêtements et se demande pourquoi les talons et les jupes sont encore majoritairement réservés aux femmes.
Je suis un homme hétéro, marié, qui aime juste porter des jupes et des talons hauts sans pour autant être étiqueté homosexuel. Lui, c'est Mark Bryan, 61 ans, ingénieur, grand, blanc, élancé, yeux bleus et crâne tondu. Il est né aux États-Unis mais vit aujourd'hui en Allemagne. Cette vidéo postée sur les réseaux sociaux il y a un petit mois m'a carrément interpellée. C'est vrai, franchement, qu'on se dise, voir des mecs en jupe en Occident, c'est pas très courant. À part en Écosse, bien sûr, avec le fameux kilt, un habit qui vient tout droit des Vikings et donc un symbole de virilité. On parle bien d'une jupe, hein. Pas facile d'assumer cette soi-disante virilité dans notre société occidentale quand on est un homme en jupe. Alors que finalement, quand on regarde ailleurs dans le monde, on trouve les sarongs en Indonésie, les hakams au Japon, les pagnes dans certaines tribus africaines, les pareos sur des îles lointaines du sud. Quand on regarde dans le passé, même chose. Dans la Grèce antique, les Romains portaient des toges. Alors oui, ce ne sont pas des jupes, ce sont des robes, et porter une robe pour un homme aujourd'hui ou dans ses pays et voisins, c'est pas encore accepté. Sauf les avocats, les juges, les prêtres ou quelques fidèles religieux qui revêtent des camis comme les hommes musulmans. Alice Pfeiffer, journaliste mode, explique que les hommes ont besoin d'une excuse sociale pour s'approprier un vêtement associé à la femme. Les prêtres ou les avocats ont trouvé la leur, la profession ou la religion. Mais bon, changer les mœurs du jour au lendemain, pas facile. Prenons l'exemple des femmes. Oui, toi, chère auditrice, toi qui es à l'aise posée dans ton jean, eh bien sache qu'il s'agit là du fruit d'un long combat. Au temps des Égyptiens, au temps des Romains, les tuniques ou les robes étaient mixtes. Et doucement, un changement s'est opéré. Des longues culottes qu'on pourrait qualifier de l'ancêtre du legging sont apparues, pratiques pour ces messieurs pour monter à cheval. Et petit à petit, le style vestimentaire masculin et féminin s'est distingué. Un habit en deux parties chez les hommes et on reste sur une pièce chez la femme. Le 17 novembre 1800, l'ordonnance concernant le travestissement des femmes, délivrée par la préfecture de police de Paris, est rendue obligatoire. Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. C'est clair, porter un pantalon est alors illégal. C'est donc un long combat qu'ont mené des femmes comme Marie-Rose Astier de Valzer, qui est la première à demander la suppression de ce texte, texte qui ne sera finalement abrogé qu'il y a 8 ans. 8 ans! Et puis à force, les femmes s'émancipent. Merci Yves Saint-Laurent qui sort le smoking féminin en 1967. Enfin, l'innovation est là. Enfin, les femmes peuvent choisir rester en robe, en jupe si elles le souhaitent, ou enfiler un pantalon si elles préfèrent. Du côté des messieurs, c'est le sulfureux Jean-Paul Gaultier qui fait sensation il y a 35 ans. Il propose sa collection, une garde-robe pour deux. Et qui voit-on ? Des hommes pour la première fois en jupe sur un podium de haute couture. Pour les hommes, pas de risque de poursuite judiciaire. Il s'agit simplement de combattre une habitude qui croupit dans un coin. Mais pas si facile que ça à faire disparaître dans une société du paraître et de l'image. Alors à quand une égalité vestimentaire ? À quand le moment où l'on pourra scroller son écran et tomber sur Mac Bryan en jupe crayon perché sur des talons hauts et trouver ça d'un banal ? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont pénalisés. Clairement, je ne vois pas de vêtements que les femmes hésitent à mettre parce que non acceptés par la société. Sur ce, mesdames, et surtout messieurs, je vous souhaite une excellente soirée à essayer les plus belles jupes d'été que vous trouverez.
C'est la fin de cette émission. Restez bien sur Radio Campus Paris pour découvrir nos nouveautés musicales et nos émissions produites depuis chez nous pendant ce deuxième confinement. Oui, oui, on garde le moral depuis la maison. Merci à Anaïs Martinez et Christophe Dacuna pour la coordination de cette émission. Merci à chacune et chacun des contributeurs, Alexandra, Nolwenn, Audrey, Mathilde et Dahlia pour leur chronique et bien sûr Chloé et Mathis pour l'interview. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site radiocampusparis.org.